C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout. C'est quoi?
Pour le moment, Tammy, tu vas nous parler de ta famille maternelle.
Mais oui, en fin de semaine, j'ai reçu une vidéo de Valérie Thériault, qui est ma cousine, qui est la fille à Jeannot. Jeannot faisait partie des Rock Machines, il a fait de la prison. Quand il est sorti de prison, il s'est fait tirer dans un char qui a été flambé, puis tout le kit. En tout cas, c'est
comme tout le monde.
C'est pas Jojo, c'est ça, les Thériault. Mais elle nous envoie cette vidéo-là, alors on écoute un extrait.
Non,
Valérie pas en prison, mais bref, c'est un petit poulet qui chante une toune de Mariah Carey et elle écrit...
Les poulets en plastique.
Exactement. Okay. Et elle écrit le message « Je prépare mon show pour l'année prochaine ». Et là, ça m'a rappelé cet été que j'ai passé, entre autres, avec les Thériault, puisque on a réussi à se réunir puis à louer des installations de camping toutes collées à Lens-Saint-Jean, au camping de Lens. Valérie était là. Et c'est vrai qu'on a présenté un spectacle sur le terrain du camping.
Mais pour votre famille.
Qui a présenté?
Pas pour notre famille, parce que c'est plus fun quand du monde regarde les Thériault.
Pour les autres. Vous avez fait ça pour les autres.
C'est ça.
Les Thériault s'impressionnent pas entre eux?
On s'impressionne plus. Jaco, le clown, avait traîné, bien sûr, son maquillage, son costume, ses petits ballons. C'est qui pogne en feu aussi? Il y avait tout son stock pour donner un spectacle.
C'est qui pogne en feu? Jaco le clown, c'est ton...
C'est qui? Il jongle des clés en
Jaco,
feu.
Jaco, c'est Jeannot?
Jaco, c'est mon mononcle.
C'est un autre.
C'est ça. Oui, oui, oui.
Je veux juste résumer, là, pour être sûr. Vous louez un camping.
Oui.
Vous faites un spectacle pour les autres.
Spontané.
Sans que personne n'ait rien demandé.
C'est ça, exactement.
Parfait, ça résume bien.
Il y a Prisca qui fait un petit spectacle de danse. Il y a mon cousin Orphée qui joue de la guitare. Évidemment, ça fait de la bouffe chez les Thériault. Fait qu'on donne de la bouffe, là, des restants de crêpes de sarrasin qu'il y a le matin, on n'a pas fini de manger, puis il faut rien laisser. Quand t'es en camping, à un moment donné, la glacière est pleine.
Ouais.
Fait que Antoine a généreusement animé, mais juste un petit extrait peut-être du spectacle de Jaco le clown.
Alors, majesté, aujourd'hui,
alors ça, c'est mon mononcle, Jaco.
Déjà, j'aime pas le camping. Là, ça me donne
non. Hey, mais les gens, vrai, je me serais fait un popcorn, je me serais assise.
Ben ouais,
j'aurais checké ça.
Les gens se sont agglutinés. Là.
Oui.
On était dans,
ça a marché.
On était dans le jus. On était dans le jus. Mais le ton était déjà donné à notre arrivée au camping. Et je vous explique, ça, c'était délicieux. Moi, j'ai loué pour l'occasion une roulotte Alto de Safari Condo. Pour ceux qui connaissent, là, c'est fait en beau. C'est très, très joli. Mais avec ça, vient... un déplace-caravane. Alors là, le déplace-caravane, c'est installé sur les roues de ta roulotte. Toi, avec une manette, tu fais bouger ta roulotte.
Non!
Ça aide, tu sais, parce que d'habitude, quand tu veux la stationner, c'est très, très difficile avec l'auto.
C'est lent, mais tu places ton...
tu réussis à la... Tu sais, ta roulotte fait des 360 grâce à ta manette. Là, donc, tu peux vraiment la mettre face à l'angle Saint-Jean, face à l'eau.
C'est une auto-téléguidée, mais...
C'est une auto-téléguidée. Mais ça, quand t'expliques ça aux Thériault, tu sais, qui sont...
des gypsies.
Ils connaissent pas tant que ça. Ils n'ont pas de téléphone cellulaire, là, les Thériault, là. C'est ça, c'est les gypsies du Québec, là. Alors, le déplace-caravane est devenu le jouet de l'heure. Moi, j'ai pas pu m'installer avant très, très tard à la fin de la journée parce que notre trip, c'était de faire promener la roulotte partout sur le camping. Fait que je vous dirais que dès notre arrivée, on a déjà donné un spectacle. Voir la face des gens qui connaissent pas cette technologie-là et qui voient passer une roulotte et sans de char qui la pousse, c'est très drôle. Fait qu'on se cache puis on fait aller la roulotte.
Ben oui, c'est classique.
Fait que j'ai déjà hâte à l'année prochaine pour revivre tout ça avec Noucha, Pimprenel, Orphée, Anaël,
Isara. Est-ce que vous avez eu un rappel à la fin de ce show-là?
Les gens n'insistent pas. Avec les Thériault, t'en as toujours plus que t'en veux.
Mais moi, je pense qu'il y a moyen...
Il y a moyen de faire ça.
Il y a moyen de faire
big,
un show qui est, on donne des billets dans ta face cloutier.
Amen.
C'est les Thériault présents.
Je pense que Billy, toi puis moi, on drop du cash, on loue Club Soda. C'est les Thériault.
Oh non, vous voulez pas ça.
Non.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
On est avec le doc Michael Bensoussan pour jaser ce matin. C'est en page 7 du Journal de Montréal. Il y a de plus en plus de femmes qui retirent leur implant mammaire parce qu'il y a des symptômes. Il y a des symptômes qui viennent avec les prothèses.
Elle se fait empoisonner.
Vraiment, littéralement. Il y a même un docteur qui a décidé lui d'arrêter de pratiquer cette intervention-là, c'est-à-dire d'installer des prothèses mammaires à cause des problèmes qui peuvent encourir. Salut, Michael.
Allô.
Merci d'être là, Michael. Écoute, les questions
C'est quoi la maladie des implants?
Alors, ça, c'est vraiment un nouvel élément qui est en train d'arriver dans le monde médical, qui fait l'objet de très peu de littérature, qui est vraiment très discutable, et donc je mets tous ces guillemets avant d'en parler ce matin, parce que très souvent, il faut quand même que les auditeurs le sachent, quand on parle d'un sujet, etc., ça a fait l'objet d'une littérature vraiment très abondante sur des immenses cohortes de patientes qu'on a comparées, randomisées. C'est ça, la lecture scientifique. Là, on est sur uniquement des cas de case report. C'est-à-dire que de plus en plus dans la littérature, on voit des cas de ci, de là, de choses qui ont été rapportées, mais rien encore de très établi. En revanche, ce que dit dans le journal de Montréal ce chirurgien esthétique de Montréal et d'autres aux États-Unis, c'est que de plus en plus de femmes, et là on parle de beaucoup de femmes, on parle de 8500 femmes par an au Québec qui se font poser des implants mammaires pour différentes raisons, qu'elles soient esthétiques ou qu'elles se soient une reconstruction après une grosse chirurgie du sein, pour par exemple un cancer. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. De plus en plus de femmes, jusqu'à 10% des femmes qui portent des implants mammaires, décriraient une sorte de symptôme de malaise généralisé qui n'est apparu que quelques semaines à quelques mois après l'implantation des prothèses et qui n'existait pas avant, qui est une maladie très complexe. Et il est très, très difficile de faire le lien avec les implants mammaires parce que ça concerne la concentration, le sommeil, l'anxiété, l'irritabilité, de la perte de cheveux, des symptômes digestifs. Il y a plus de 30 symptômes, 40 symptômes comme ça, qui sont listés.
On dirait la maladie de Lyme.
Et qui, ben, on dirait une de ces maladies, comment dirais-je, bizarres, nouvelles, que la médecine...
Dont les contours sont flous,
que la médecine ne connaît pas, et pour laquelle il est difficile de dire autre chose avec beaucoup d'humilité et de recul que ce que je vous dis ce matin. La médecine ne le sait pas exactement. Mais qu'est-ce qu'a constaté ce chirurgien esthétique? C'est que lui, il en a eu marre, il a dit « c'est assez ». Tellement de femmes qui viennent me dire « c'est apparu que depuis ». Que j'ai eu mes prothèses mammaires, il a décidé de commencer à explanter des femmes, c'est-à-dire à retirer les prothèses mammaires chez ces patientes-là. Et il a un taux de réussite, dit-il, extraordinaire. Il dit, quasiment toutes les femmes qui viennent dans mon cabinet me dire ça ne va pas pantoute depuis que j'ai mes prothèses mammaires, je leur retire ces prothèses-là et les symptômes disparaissent en quelques semaines. C'est quelque chose qui a été constaté déjà en Europe, aux États-Unis, et qu'on commence à appeler la maladie des prothèses mammaires.
Mais là, il y a cette maladie-là qui est présente, mais il y a quelques années, il me semble, on a cessé de parler des implants cancérigènes.
Absolument.
Certains implants qu'on devait faire enlever, blablabla.
Alors, oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, d'abord, il ne faut pas que les auditrices qui nous écoutent et qui ont des implants mammaires soient forcément très inquiètes de
ça.
Ce qui est important, c'est d'attirer votre attention, auditrices qui nous écoutez, si vous avez des implants mammaires et que peut-être vous ressentez tout ce qu'on vient de dire ou des choses bizarres depuis qu'on vous a implanté des prothèses. Maintenant, ce qu'il y a eu, et Valérie rappelle ça, c'est qu'en 2019, donc il y a pas longtemps, il y a trois ans, certaines prothèses qu'on dit texturées, parce qu'en fait depuis très longtemps on met des prothèses mammaires qui contiennent du silicone et qui sont en silicone et qui sont très lisses, complètement lisses. Et en fait, les prothèses lisses, ça fabrique de la fibrose autour du sein qui fait qu'en fait les seins au bout d'un moment vont se déformer, voire on peut développer des maladies dans les seins. Donc depuis quelques années, on fait des prothèses dites texturées, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont comme des petites nervures dessus, parce que d'abord, elles tiennent plus longtemps en place, et ensuite, il y a moins de fibrose qui se fait autour. Sauf que, en 2019, certaines prothèses texturées, certains médecins, aux États-Unis, il y a eu 65 cas d'apparition d'un cancer très spécial dans le sein, qui s'appelle le lymphome anaplasique à grandes cellules. Et en fait, ben voilà. Mais c'est qui se soigne dans 80% des cas, mais malheureusement, il y a eu des décès à cause de ça. Et il y a une marque, Allergan, qui a retiré ses prothèses en 2019 du marché parce qu'elle faisait, elle donnait plus ce cancer-là, même s'il était très rare, que d'autres prothèses. Alors, c'est pas la même chose dont on est en train de parler. Là, je dis aux auditrices, les cancers au niveau des prothèses mammaires, c'est encore plus rare que la maladie dont on parle, la maladie des prothèses mammaires. Ne vous inquiétez pas, la seule leçon de tout ce qu'on est en train de se dire, c'est que quand on a des prothèses mammaires, il faut continuer de se faire surveiller, il faut continuer d'aller consulter et de se faire regarder
avec ce que tu sais, puis avec où est la science, est-ce que tu déconseilles? De se faire
Non, je déconseille pas ça. Je dis juste que les prothèses mammaires, il y a plusieurs types, il y a plusieurs matières. Moi, ce que je déconseille, et je le redis, c'est d'aller faire ça cheap au rabais dans d'autres pays, dans le package. Je vais en Turquie, je vais en Tunisie, je vais me faire faire ça avec une semaine de spa, etc. Parce que là, on n'a pas la main sur le matériel qui est implanté. Et là, on n'a surtout pas la main sur le suivi. Parce que bien souvent, si on vient consulter un médecin au Québec parce qu'on a des problèmes avec le matériel qui a été implanté, on n'a aucune idée de ce qui a été implanté là-bas. Donc ça, je le déconseille. Par contre, ce que je conseille comme toujours, c'est de challenger son docteur. Vous avez envie d'une prothèse mammaire, il faut s'asseoir avec un docteur qui a pignon sur rue, qui est bien réputé, et venir avec toutes ces questions et le challenger là-dessus. On a le droit de jaser, de savoir ce qu'on met dans son corps.
Martin, tu peux les garder.
Ouais, je vais les garder, effectivement. Michael, on te garde avec nous. On a des questions pour toi sur le texto 96.9.
Sur tous les sujets.
Vous avez une question sur le, pour le doc. Allez-y tout de suite.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
C'est avec le doc Michael Bensoussan et on répond à vos questions que vous nous textez sur le 96.9.
La première, c'est quelqu'un qui s'identifie pas, mais je trouve ça intéressant comme question. Elle dit, est-ce que le doc Michael Bensoussan prend encore des nouveaux patients? On est à la recherche d'un gastro-entérologue pour ma grande qui vient d'avoir 18 ans. Pour le moment, elle est suivie par Sainte-Justine, mais il faut changer.
Ah oui, il change de régime.
On cherche
ouais,
des médecins.
Alors, je déconseille aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent d'essayer d'obtenir un rendez-vous avec moi. Ça ne va pas améliorer votre sentiment d'attente au Québec en termes de nouveaux patients. C'est pas que j'en prends pas, mais c'est que
c'est difficile. Hein?
C'est compliqué. Puis vous imaginez bien qu'à force de passer à la radio, à la télé, ça n'est pas la seule à poser la question.
Ça,
donc
ouais.
Bref, c'est compliqué. En tout cas, ce qui est très intéressant dans cette question, c'est qu'effectivement, les hôpitaux pédiatriques, par exemple à Montréal, le Children ou le Sainte-Justine, à 18 ans vont arrêter de suivre votre enfant. Normalement, le système fait que si votre enfant est suivi pour une maladie chronique par tel ou tel spécialiste à Sainte-Justine, automatiquement dans l'année des 17 ans, il va y avoir un rendez-vous et le médecin spécialiste est supposé de faire un résumé de dossier et de vous trouver un médecin spécialiste. Si ça n'est pas fait, parce que malheureusement il y a des glitches dans le système, il faudrait effectivement, je conseille vivement à cette maman ou à ce papa qui nous écrit de prendre rendez-vous avec le spécialiste pour que ce move soit fait, mais c'est au spécialiste de vous orienter sur un médecin adulte.
Sinon, Michael est là tous les lundis, là, fait qu'il y a moyen
de... Je suis là tous les lundis, on donne l'adresse. L'adresse de c'est quoi, Place Bonaventure.
L'attendre à la sortie, la file devant les studios.
Amener un pain et une poule, il prend le truc.
Il va commencer à faire froid pour un toucher rectal. Par
il y a Marie-Ève qui nous écrit, elle dit, depuis quelques mois, j'ai des gaz. C'est pas nécessairement tous les jours, mais elle dit, quand j'en ai, ça sent la mort, c'est épouvantable.
Absolument.
Est-ce que ça peut être signe d'une intolérance?
Ça peut être le signe d'une intolérance. En fait, les gaz intestinaux sont produits dans le phénomène normal, on l'a déjà dit, par les bactéries qui sont présentes dans le côlon, le microbiote. Et quand on a une dysbiose, c'est-à-dire ce microbiote qui est déséquilibré, on peut effectivement avoir des odeurs comme ça qui sont anormales et ce sentiment d'être ballonné, le météorisme abdominal, on appelle ça. Donc il y a deux choses à faire pour agir sur ce sentiment de ballonnement. Un, c'est qu'il faut aller regarder quels sont les aliments qui favorisent comme ça le ballonnement. Il y a les boissons gazeuses, il y a tout ce qui est les légumineuses, les choux, les choses qui sont difficiles à digérer, etc. Donc ça, effectivement, faut slacker ça un peu, probablement quelques semaines, le temps que ça se rééquilibre, puisque la flore intestinale s'adapte toujours à ce qu'on mange. Et deux, une cure de probiotiques, je le rappelle aux auditeurs, on est en entrée d'hiver, prendre des probiotiques un mois, pas plus que ça, pour rebalancer la flore intestinale, ça va vraiment, vraiment être une bonne idée et c'est presque toujours générateur de bienfaits.
Il y a Marie-Claude Royer qui dit, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la grossophobie médicale et nous donner ton point de vue là-dessus?
Oui, alors donner le point de vue là-dessus, on est quand même lundi, je ne sais pas si je suis prêt à mettre ma famille en danger. Mais,
parce que c'est un sujet chaud.
La grossophobie est un sujet très sensible qui touche toute la société. C'est-à-dire qu'il y en a assez, et évidemment, à titre personnel, je suis d'accord avec ça, de stigmatiser les gens parce qu'ils ont du surpoids ou de l'obésité, que ce soit au niveau des tarifs pour tel ou tel déplacement, que ce soit au niveau d'une discrimination à l'embauche ou quoi que ce soit. Bon, maintenant, il y a beaucoup de patients et de patientes qui se sentent victimes de grossophobie par les médecins. Parce que quand ils arrivent dans un cabinet médical, qu'ils sont reçus par un médecin de famille ou par une IPS ou une infirmière spécialisée ou que sais-je, on les pèse et on leur dit qu'en fonction de leur indice de masse corporelle, ils vont être dans le surpoids ou dans l'obésité.
Parce que c'est un indicateur en médecine.
Et évidemment,
le poids,
chez nous, l'obésité va être un facteur de risque au même titre que le tabac ou l'hypertension artérielle, un facteur de risque cardiovasculaire de développer telle ou telle maladie. Donc, nous autres, les médecins, on oscille entre l'évolution de la société qui est normale et qui dit qu'il est inacceptable, et je suis d'accord évidemment en tant que citoyen avec ça, de stigmatiser quelqu'un parce qu'il est en surpoids, surtout que souvent ça vient d'un problème de santé sous-jacent. Mm-hmm. En général, la plupart des gens qui ont du surpoids, c'est pas forcément un choix, c'est souvent qu'il peut y avoir en dessous un problème, soit de rapport à l'alimentation, soit un problème de thyroïde, que sais-je. Ouais. Mais il y a aussi le fait que nous autres, les médecins, on peut pas encourager les gens à garder le surpoids ou l'obésité, puisque ça va être un facteur de risque de développer, par exemple, dans ma spécialité, des polypes. Clairement, le surpoids ou l'hyperalimentation, une alimentation trop riche, ça favorise tel ou tel cancer. Donc, ouais, la médecine n'a pas fait la paix avec la société sur certains problèmes comme celui-là, mais c'est très intéressant de le soulever. Ça pourrait prendre toute une journée de débat.
Mmh. Michael, merci infiniment. Est-ce que tu as un saviez-vous que rapide?
Mais évidemment, j'ai un saviez-vous que. Nous avons parlé de prothèse mammaire tantôt.
Ouais.
Je voulais vous dire un truc très intéressant. Le sein est constitué de trois tissus. Le tissu glandulaire, celui qui fabrique le lait et qui est là pour donner le bon lolo aux enfants. Le tissu graisseux, qui va donner le volume et le galbe au sein. Et le tissu fibreux, qui va être le tissu conjonctif, le tissu de soutien, qui va donner le soutien et la forme. Et en fait, plus il y a de tissus graisseux, c'est-à-dire plus le sein va être volumineux et opulent, plus il va être noir à l'échographie, à la mammographie, c'est-à-dire plus il va être facile de dépister des lésions. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, en radiologie, dépister des lésions précancéreuses ou cancéreuses est beaucoup plus évident sur un gros sein que sur des petits seins. C'est à cause de la composition du sein.
On aurait cru le contraire.
Merci, Doc.
Le podcast Debout les comiques.
Il arrive parfois que le comportement de quelqu'un fasse payer tout le groupe. Ça arrive, on le sait, à l'école, on a grandi en apprenant ça. Il fallait tout être solidaire, sinon on payait. Et c'est arrivé à la NFL. Toutes les équipes de la NFL ont reçu une note cette semaine, une note concernant un geste qui a été posé par Tom Brady. Tom Brady, dans le match de la semaine dernière, pas en fin de semaine, mais l'autre contre les Saints de la semaine 2 de l'activité dans la NFL. Tom Brady a pété des tablettes pendant le match. Il y a des tablettes sur lesquelles il échange des informations, soit des patterns de jeu ou autres, auxquels il réfère. Comme ça, on voit souvent, donc, des joueurs qui vont prendre en main des tablettes pour voir la suite des choses. Ces tablettes-là sont commanditées dans la NFL par Microsoft. Okay. Et eux autres, ils disent, OK, là, la NFL a dit à Tom Brady et toutes les 32 équipes, là, vous arrêtez de briser le matériel. Vous arrêtez de passer vos mères sur les tablettes parce que pour vrai, il va y avoir des conséquences. On va vous mettre en amende si vous arrêtez pas de faire ça. Arrêtez, c'est commandité. On a une image à respecter aussi en tant que ligue. On peut pas tout le temps se fâcher après tout puis tout péter ses lignes comme ça. Et d'ailleurs, Tom Brady a réagi à l'avertissement de la NFL en faisant une petite vidéo qu'il a partagée sur son compte Twitter et Instagram. On écoute un petit peu de ce qu'il dit, M. Brady.
Oh, shout out to the D coming up huge again. The ugly ones count too. And sorry for breaking that tablet. I think that's going to be another Twitter meme or something.
Donc, il donne une bonne main d'applaudissement à sa ligne défensive qui a joué une grosse game. Mais aussi, ah oui, je voulais dire, faudrait pas que ça devienne un meme. Quand j'ai brisé les tablettes sur les lignes de côté, je m'excuse d'avoir fait ça. C'était pas très élégant. Il s'est excusé. Donc, mais ça nous est tous déjà arrivé.
Ah oui.
Dans le feu de l'action ou non. Ben, c'est tout le temps. C'est dans le feu de l'action parce que tu te fâches après un objet dans la vie parce que tu essaies de l'utiliser là. Donc, la fois où un objet a goûté à ta colère, je suis curieux de vous entendre. 790, c'est quoi? Le texto 96-9. Ça nous est tous déjà arrivé. Moi, il y a un rideau, je l'ai déjà raconté, il n'y a pas tant de temps à bord de ça. Une espèce de rideau avec, c'était comme des fils qui descendaient, mais sur toute une pôle. J'essaie de prendre ça pour le laver dans la laveuse. Mais mauvaise idée, ça s'est tout enroulé autour.
Ah, oh non!
Non, mais pas un peu, là. Puis moi, je venais d'acheter ma maison. Écoute, je l'ai sorti avec les ciseaux en sacrant.
Je comprends.
Il est en bout de 4 pouces là, partout. Je l'ai mis à la poubelle. Écoute, fuck le rideau, man. Je tente.
Moi, je peux pas m'empêcher de penser aux petits colliers de ma fille là, qui sont emmêlés. Ah, là, à un moment donné, c'est un travail de minutie. Et à l'épisode des Beaux Malaises où Martin Matt essaie de poser un cadre, je pense que pour illustrer cette colère-là face aux objets, s'il n'y a pas meilleur, je trouve, segment vidéo.
J'ai fait des petits traîneaux chez une de mes amies dernièrement et j'ai changé des luminaires. Genre d'affaires que je fais vraiment pas souvent.
Non!
Hey, c'est délicat.
Les bras dans les airs, en plus.
Man, exactement.
T'as aucune position.
T'es complètement en haut de l'échelle. Fait que c'est comme ça fait peur un peu. Mm. Tu joues avec l'électricité, même si le breaker est fermé, t'es comme, est-ce que c'est vraiment, vraiment fermé? Ouais. Là, faut que tu joues avec les marettes, avec le petit X dans lequel il faut que tu mettes la lumière. Hey, man. À la fin, là, j'ai juste, je vargeais dessus avec le marteau.
Bonne idée.
Oui, s'il voulait pas rentrer à place. Exemple.
Quel objet, donc, a goûté à votre colère? Textez-nous ça tout de suite sur le 96-9.
Ça finit en encastré.
Honnêtement, Presque.
Le téléphone, 790, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Tom Brady qui pète une tablette en plein match de la NFL qui dit hey, vous allez vous calmer avec le matériel commandité en plus, sinon vous allez avoir des amendes. Ça nous est tous déjà arrivé de se fâcher après un objet. Voyons, Tom, il n'est pas tout seul au monde, là.
Ben non!
J'ai au moins ça en commun avec lui, sinon tout le reste, rien du tout en commun avec lui.
Hey, moi, il y a Donald qui me fait tellement rire sur la message du texte. Il dit moi, c'est un lecteur VHS, malheureusement. La cassette entrait pas, puis mon fils qui avait 3 ans, voulait écouter Caillou. Fait que je me suis vraiment acharnée pour faire rentrer la cassette. La cassette a fini par péter. Ça a pété aussi le VHS.
Mais voyons.
Puis il dit, finalement, quand j'ai ressorti tout ça en me disant, bon, mais ça marchera pas, j'avais réalisé que mon fils de 3 ans avait mis son grilled cheese.
Dans le VHS. Wow. C'est très drôle. Il y a Jake qui prend du temps pour nous au téléphone. Salut, Jake.
Salut, Jake. C'est bon.
Salut, ça va?
Ça va bien, Jake? T'es-tu déjà fâché après un objet, toi?
Moi, après trop d'objets, pour vrai.
Pour vrai?
Oh, il y a pas mal de tout qui a passé.
Mais raconte-nous, ton ordinateur, un moment donné, ça n'a pas bien été pour lui, hein?
Ouais, bon, moi, j'étais un petit peu accro aux jeux vidéo dans le temps, puis je jouais à World of Warcraft. Ça fait que mon ordi, on était en train de perdre, puis là, je me suis frustré après tout mon groupe. Fait que j'ai, genre, poigné ma tour, puis je m'en suis débarrassé, mais je l'ai compris. Je l'ai piché à travers ma fenêtre. Mon char, il était en bas. L'ordi, elle s'est ramassée direct dans le windshield, mon homme. C'était smashé bien raide, là. Mais l'affaire, c'est que ça fait à peu près 8 ans de ça, puis c'était un vieux Honda Civic 97. Fait que le windshield, en tant que tel, coûtait aussi cher que le char.
Jake, vraiment, man.
Hey, merci, Jake, de ton appel. Bonne journée.
Depuis, t'as suivi une formation de gestion de la colère, j'imagine. Ben ouais.
Réparation de pare-brise.
Wow.
Sébastien aussi qui veut nous jaser. Salut, Sébastien.
Hey, salut, ça va?
Oui, ça va. Hey, t'es-tu déjà fâché après un objet?
Oui, ben moi, dans le temps, il y avait le lecteur CD là, que tu pluguais, là, le fil avec la cassette là, dans le char.
Oui.
Ça, ben, ça marchait, puis ça marchait pas, puis plug le fil, déplug le fil, ma cassette, enlève la cassette, plug dans l'inter. Ça marchait jamais à mon goût. À un moment donné, j'ai arrêté le char, je dépluguais ça, j'ai mis ça en dessous de la roue du char, j'ai pris les tubes de l'avant, j'ai pris les tubes de reculons, j'ai remis ça dans le char, puis j'ai dit, là, tu sais pourquoi ça marche pas, j'ai pris les tubes.
Très drôle.
Merci, bon. Seb. Bonne journée.
Il y a Eric sur la messagerie texte. Il me fait vraiment rire.
C'est
vous vous souvenez des téléphones flip?
Ben oui.
Alors lui, il parle à sa blonde. Ça vire mal. Elle y raccroche au nez. Il dit, je reprends mon téléphone. Je la rappelle. Elle raccroche encore. Il fait là, je flippe violemment le téléphone. L'affaire, c'est que je le flippe de l'autre sens. Ce qui fait que je le casse. Mais il dit le plus drôle là-dedans, c'est que je l'ai rappelé puis je pouvais encore y parler. Il y avait encore un haut-parleur.
En deux pièces.
Exactement. Alors, c'est Eric. Merci, Eric.
Il y a Alain L'Espérance qui dit des bâtons de golf. Et j'étais curieux, Martin, en as-tu brisé pas mal?
J'ai jamais brisé un bâton de golf, mais je me suis déjà fâché au golf. Là. Ça, c'est clair.
As-tu déjà lancé un bâton? Comme dans les films, là.
Pas comme dans les films.
Okay.
J'essaie vraiment, quand j'arrive pour le lancer, ça va arriver. J'ai déjà lancé un à terre, mettons, là.
Ouais.
Moi, j'ai déjà joué avec quelqu'un de très connu qui m'a fait l'hélicoptère au-dessus de la tête, là.
Jean-Michel Anctil.
Arrête!
Non, mais je suis sûr, il dit lui-même.
Jean-Michel, ben, dans le temps,
quand il jouait au golf à l'époque.
Ouais. Il y a une vingtaine d'années, à un moment donné, là, le bâton qui a passé au-dessus de moi, là, j'ai regardé Jean-Michel, j'ai dit, la prochaine fois que tu me fais ça, je te le rentre dans la gueule.
Ben oui, c'est dangereux.
Puis là, il a fait comme, OK.
Jean-Michel, c'est un joueur. Il a le goût de jouer, il veut gagner. Il prend ça au sérieux, là. C'est ça qui est le fun.
Très au sérieux. Vous êtes nombreux sur la messagerie texte à réagir. Les bâtons de golf, effectivement, c'est un classique.
Oui. Jean-Sébastien Racine me fait beaucoup rire. Il dit maudit. L'histoire du luminaire de Val, je pense que ça me fait penser à... Je viens de poser un miroir au plafond. Il était très, très lourd. J'étais bien seule pour le faire. Fait que c'était comme le cou cassé pour le tenir en position. Braquette d'un bord, l'autre décroche, sur accroche l'autre. Ça m'a pété d'en face. Le miroir, il est tout croche, mais il est accroché.
Tu sais, quand tu finis par « ça va être ça », là.
Oui, ouais. Exactement.
Sinon, il y a peu de gens qui ont écrit des manettes de jeux vidéo. Je suis surpris parce que je pense que j'en connais plusieurs, moi, qui en pitch allègrement.
Des manettes de Wii dans
cher,
télé. Là.
Je veux saluer mon ami Gilbert qui avait lancé une Kodiak dans sa télé parce que les Nordiques avaient perdu.
Il est allé
dans l'entrée, il pong, la première affaire qu'il voit, c'est ses bottes de travail, il rentre dans le salon puis il te le snap dans la télé, ma fille. Il a tué une TV avec une Kodiak.
Sinon, moi, j'ai un souvenir vraiment dans ce studio-ci, le studio de c'est quoi? Notre metteur en onde qui était venu me faire un genre de...
T'as chatouillé sur le bord.
Me chatouiller, le jouer avec mes nerfs. Je me suis relevé de mon banc, puis lui, il est retourné derrière sa console, et j'ai pris un banc pour y lancer par-dessus les écrans.
C'était pas didgeridoo, c'était Mario.
Mais t'as lancé, t'aurais non, pu c'était... péter la console.
Mais toutes.
Les ordis, t'aurais pu tout péter, là.
Exactement.
T'as été chanceuse dans ton impulsivité.
Ah oui, oui, tout à fait. Mais ça s'est passé ici encore, dans le studio. On n'est jamais à l'abri de ça. Hey, mon tabarnak.
Le podcast Debout les comiques.
J'ai jamais chassé de ma vie. J'ai jamais même pêché de ma vie.
Hein?
Et toi, t'es un chasseur et je veux que tu nous vendes ta salade. Je veux que tu nous vendes ton sport. Pourquoi je devrais...
Je suis pas sûr
que
c'est de la salade.
Non, mais pour vrai, c'est un article d'Urbania qui m'ébranle ce matin, pour vrai, parce qu'il y a 4 points qui est donné par l'autrice de cet article-là qui a décidé de pratiquer la chasse avec son chum. C'est Alice Efferson, qui signe cet article-là. Et elle donne 4 raisons principalement pour laquelle elle a accepté de jouer le jeu de son chum puis de dire, ben regarde, je vais aller à la chasse avec toi. Le premier argument, c'est la qualité de la viande. On le sait, il y a des scandales concernant la viande qu'on peut acheter en épicerie de temps à autre avec de toutes sortes de problématiques. Elle dit, la qualité de la viande, le gibier naturel, il n'y a rien de plus bio que la viande de gibier qu'on va prélever nous-mêmes dans la forêt, mettons. Un autre point qu'elle apporte comme pour vendre cet argument-là de la chasse, le volet environnemental. On le sait qu'il y a certaines populations qui ont perdu leurs prédateurs, entre autres les loups qu'on a chassés à outrance pour se protéger nous-mêmes. Ça fait qu'il y a plus de chevreuils. On a besoin d'équilibrer donc les cheptels de différentes espèces. Donc, c'est quand même un apport environnemental important. Un autre de ces 4 arguments, c'est une activité de plein air. T'es obligé d'être dans le bois, puis d'être dehors à la chasse, puis de marcher des longues distances.
De vivre la météo qu'il y a cette journée-là. Là.
Complètement, de vivre ça. Et le dernier point qu'elle apporte dans son article, c'est l'aspect... Non, pas la bière! Pas la bière, mais plutôt l'aspect éthique. Parce qu'elle dit, la chasse, c'est des animaux qui sont élevés dans leur... sont pas élevés, en fait, ils évoluent dans leur milieu naturel, contrairement à des animaux empilés dans de l'élevage intensif. Elle dit donc, puis même au niveau de comment... Quand tu chasses ta proie, quand tu tues ta proie, souvent, c'est un procédé qui est instantané, ce qui est pas toujours le cas dans les abattoirs, puis ces choses-là. Donc, ça, c'est ces 4 points. Et moi, j'ai le goût de vous entendre là-dessus. Moi, je viens d'un milieu où il y en a plein, de la chasse au canard à Louisville, c'est un classique parmi les classiques, mais j'ai jamais pris une arme même dans mes mains pour chasser. Philippe est en ligne pour nous vendre son sport. Salut Philippe!
Oui, salut!
Philippe, merci de prendre du temps pour nous. Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans le fait de chasser?
Moi, c'est carrément d'être dans la nature. C'est toi, à te lever de bonne heure le matin, tu vas t'asseoir dans le bois ou dans ta cache, puis là, ben, t'assistes à l'éveil de la nature, t'assistes au lever du soleil, tous les petits bruits dans le bois. Mais ça l'implique aussi qu'une couple de semaines avant, faut t'aille préparer ton spot, faut tu nourrir tes chevreuils. Fait que là, ben, t'as à marcher dans le bois. Là, ben, avec les belles températures d'automne, ben.
On comprend,
Y a pas mieux.
C'est tout le
processus. Oui, vas-y.
Non, mais donc, c'est tout le processus que tu trouves agréable.
Ben oui.
Toi, t'es producteur maraîcher, je pense, Philippe, hein?
Oui.
Donc, toi, ça fait aussi partie du moment où c'est la fin de tes récoltes. Donc, toi, c'est tout un cérémonial, quasiment, cette habitude-là.
Bien, ça fait partie du cycle des saisons, si on peut dire. Là. Moi, l'été, j'ai pas de temps pour moi. Fait que là, ben, l'automne arrive, c'est plus tranquille. Fait que c'est comme je dis, moi, c'est d'aller se promener dans le bois, puis c'est de découvrir, bon, ben, on a des pistes de chevreuil ici. OK, bon, ben, par où ce qui passe, c'est quoi ses habitudes? C'est de découvrir les habitudes du chevreuil pour essayer de.
Il y a une stratégie.
C'est ça, c'est une stratégie que t'as avec lui, là.
Hey, on t'entend très bien, mon cher Philippe. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous ce matin. C'est apprécié. Il y a d'autres personnes qui veulent réagir. Gênez-vous pas pour le faire. 790, c'est quoi? 790-2564. Le texto 96-9. Puis j'arrête pas de penser. Moi, je me souviens, j'étais allé faire un show à un moment donné à Lebel sur Quévillon. Puis il attendait de savoir si l'usine qui fait vivre le village était pour fermer ou pas. Et il y a des gens qui allaient chasser à ce moment-là. Moi, il y avait 287 places dans la salle. Il y avait 285 femmes.
Ouais.
Puis ils sont allés à la chasse pour manger. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous diminuez votre facture d'épicerie peut-être en chassant comme ça? Je suis curieux de vous entendre aussi cet aspect-là. 790-2564. 790, c'est quoi?
Le meilleur des comiques sur demande.
On se parle de chasse ce matin. C'est Urbania qui nous inspire avec une journaliste qui dit, moi, là, j'ai commencé à chasser avec mon chum. C'est lui qui est l'adepte en premier. Et elle donne quatre raisons principales pour pratiquer la chasse.
Stéphanie Benoît, c'est son cas. Elle dit, pour ma part, c'est mon amoureux qui m'a fait connaître la chasse. Et seulement le fait d'être dans la forêt, chez les animaux, ça me fait un bien énorme. Ah, fait que oui, il y en a plusieurs qui parlent de la chasse, mais il y a aussi cet environnement-là qui est apaisant puis qui est agréable.
On va aller au téléphone tout de suite rejoindre Guy Pascal, qui est un de nos amis ici dans Debout les comiques. Salut Guy!
Salut tout le monde, ça va bien?
Ça va bien, très bien. Guy qui nous a fait visiter le REM le printemps dernier, le chantier du REM. Écoute Guy, toi tu es un chasseur devant l'éternel et tu reviens de la réserve faunique de Matane, ça?
Exactement. J'arrive d'une semaine de chasse sur la réserve de Matane.
Tu chasses quoi?
J'ai chassé l'orignal.
Puis toi, c'est un classique. Et à chaque année, tu t'en vas à chasse. C'est-tu une activité qui est constante, récurrente?
Oui, à chaque année, là, depuis que j'ai l'âge de 15 ans, là, je vais à la chasse à l'orignal. Le but de la chasse, pour moi, c'est pas nécessairement de tuer une bête ou de pouvoir ramener de la viande à la maison. Là. Le but de la chasse, c'est vraiment de m'éloigner du bourdonnement de la ville, puis vraiment de me ressourcer, d'aller me chercher une énergie que tu peux pas retrouver ailleurs. Tu sais, il y en a qui vont aller chercher l'énergie dans un spa ou whatever, mais d'être dans le bois, dans la nature, d'entendre tous les bruits, toutes les sortes d'animaux, les oiseaux, les écureuils, n'importe quoi, mais là, ça te ressource. C'est tout ça, ça te ressource.
Parce qu'il arrive, Guy, quand que tu reviennes, puis que t'as pas pogné à l'orignal, ça, on l'entend souvent, cette phrase-là, là, qui tu peux revenir bredouille, là.
Ouais, tu peux revenir bredouille, mais comme faut pas que tu vois ça comme de quoi que t'as pas été chanceux. Là. Faut juste que tu vois ça comme t'as fait un voyage dans le sud. Comme tu vas dans le sud, tu sais rien. On fait un voyage de chasse, puis on profite de la nature, qui est carrément de la nature. C'est vrai, on est vraiment du matin au soir avec la nature, puis c'est le temps que tu peux te questionner, tu sais, d'aller chercher des réponses en toi-même, de ce que tu veux faire, de ton avenir, de ta vie, tout ça. Et de tuer, ben c'est juste la cerise sur le sundae qui t'amène une viande qui est hyper naturelle.
Mais Guy, tu sais, la viande, là, on parlait de chasser pour se nourrir, est-ce que ça revient dispendieux de chasser? J'imagine qu'il y a plusieurs choses à
ou
payer,
c'est moins cher,
à penser.
Ouais.
Ben,
ça dépend où tu vas. T'sais, si tu vas dans un secteur qui est freehold puis que tu chasses, c'est sûr que tu as ta carabine, tu as tes balles. Puis là, les balles, ben il faut t'en acheter à tous les ans ou aux deux ans parce qu'il faut que tu ailles pratiquer ton tir. Tu peux pas dire ma carabine, elle va toujours être prête, elle va toujours tirer droit, à la bonne place. Fait que à tous les ans, faut que tu ailles t'assurer que ton tir va être précis, va être bon. Fait que ça a un certain coût. Après ça, ben de manger, tu le comptes pas parce que tu manges chez toi ou que tu manges à la chasse. Je veux dire, c'est la même bouffe, c'est le même prix.
Ouais.
Fait que, dépendamment si tu vas dans une réserve, c'est comme à Matane, dépendamment dans quel groupe que tu vas, ben c'est que c'est de 1000 à 1400 par personne.
C'est un voyage, exactement.
Hey,
Guy, merci d'avoir pris du temps pour nous ce matin. C'est apprécié pour le plaisir de se recroiser avec grand
plaisir. Ça fait super plaisir.
Salut, Guy.
Hâte de vous voir.
À la prochaine, Guy Pascal, un fidèle ici de Debout les comiques, un ami de la station.
Il y a Donald aussi qui nous a écrit sur la messagerie texte. Lui aussi, c'est le principe, évidemment, de se ressourcer puis de déconnecter. Mais lui, il précise aussi, moi, ce que j'aime, c'est les bonnes bouffes qu'on se fait. C'est les retrouvailles entre amis, les amis de chasse qu'on voit juste à la chasse. Puis c'est aussi le mouvement du chasseur généreux. Donald et sa gang, eux autres, ils donnent une partie de leur viande à des groupes d'aide alimentaire. Donc ça aussi, ça fait partie du plaisir de chasser, donc de redonner par la suite.
Et ça fait permet de prendre une petite pause de ta famille. Ceci dit...
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.